Vous êtes sur RTL.
Le Grand Jury, émission spéciale. Invité aujourd'hui, le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bienvenue à tous dans ce Grand Jury exceptionnel. Bienvenue Benjamin Sportouche. Exceptionnellement à LCI aujourd'hui, dans ces circonstances un petit peu particulières, notre invité Olivier Véran nous répondra dans un instant pendant une heure. Émission intégralement consacrée bien évidemment à la crise du coronavirus. Bonjour Olivier Véran, merci d'être avec nous en direct depuis votre bureau du ministère de la Santé. Vous pouvez, téléspectateurs, poser et auditeurs, vos questions sur LCI RTL avec le hashtag Le Grand Jury. Nous les relayerons tout au long de cette émission avec Benjamin Sportouche. Mais d'abord, comme chaque dimanche, avec vous, Benjamin, les enjeux de cette émission.
Bonjour à tous, bonjour Olivier Véran. Il y a à peine 5 semaines, vous avez donc succédé à Agnès Buzyn dans des conditions imprévues. À peine arrivé, vous devez donc contrer la plus grave épidémie que la France ait à connaître depuis un siècle. Et l'une des interrogations récurrentes des auditeurs de RTL, des téléspectateurs de LCI TF1, c'est celle-ci. Pourquoi la France n'était-elle pas suffisamment préparée? Nous en parlerons dans la seconde partie de ce grand jury. Mais d'abord, c'est en quelque sorte au premier médecin de France que nous nous adressons. Et les Français attendent plus que jamais vos réponses les plus transparentes possibles. Car si la majorité d'entre eux font confiance au gouvernement pour gérer cette crise inédite, selon un sondage paru ce matin dans le journal du dimanche, ils sont 64% à juger que vous leur avez caché des informations, Olivier Véran. Première question donc, monsieur le ministre, combien de Français pourraient être touchés par le coronavirus? Certains médecins ont parlé de 50 à 60% de la population atteinte.
Une épidémie liée à un virus va toucher une partie de la population qui va être dépendante des caractéristiques propres du virus, c'est-à-dire sa capacité à être transmise d'une personne à une autre, la durée pendant laquelle le virus va être contagieux chez quelqu'un qui est infecté, et ses caractéristiques sur un virus émergent, un virus qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques mois, un virus qui nous vient de Chine, ces caractéristiques sont très complexes à maîtriser et à comprendre. Aucun pays au monde, à l'heure à laquelle je vous parle, n'est capable de dire quel est le pourcentage de la population qui devra être immunisée, c'est-à-dire qui devra être infectée ou immunisée par vaccination quand nous aurons un vaccin, avant que le virus arrête de circuler. Ce qu'on sait, c'est que des coronavirus, il y en a eu d'autres dans l'histoire, et qu'en général, la circulation du virus pouvait concerner 20, 30, 40, 50, 60% de la population.
Donc ça peut monter.
Je n'ai pas le chiffre, et si je vous donnais un chiffre aujourd'hui précis, je l'inventerais. Aucun scientifique aujourd'hui n'est capable de dire avec précision quelle est la part de la population qui devra être infectée par le virus pour que l'épidémie soit considérée comme terminée. Mais nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour que cette contamination soit la plus restreinte possible dans le temps et la plus restreinte possible en termes de nombre de Français qui sont touchés.
Olivier Véran, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, en revanche, de comptabiliser réellement le nombre de décès liés à cette maladie? On a bien compris qu'on ne testait pas tout le monde. Est-ce qu'on teste tous les décès aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable d'établir s'ils sont liés ou pas au coronavirus?
La France plus que d'autres pays, puisque nous testons systématiquement tous les patients qui sont en réanimation avec des troubles respiratoires sévères. Nous testons les patients qui sont en réanimation même quand ils sont très âgés et qu'ils décèdent alors qu'ils avaient beaucoup de maladies qui pouvaient entraîner une fragilité physique pour eux. Et donc, nous avons la capacité d'être au plus proche du nombre réel de victimes.
Le pic de la maladie, Olivier Véran, est-ce qu'on est capable, en revanche, de savoir quand il interviendra? On avait entendu ces derniers jours des soignants expliquer que c'était probablement pour ce week-end, peut-être ce début de semaine, que le pic interviendrait en Île-de-France. Est-ce que ça, vous êtes capable de l'anticiper à l'échelle nationale et dans les régions?
Nous savons quand un pic d'épidémie a été atteint, dès lors que nous observons une décroissance du nombre de cas. Nous sommes capables d'anticiper un pic épidémique, parce que nous suivons la trajectoire du nombre de malades. Mais ce que les Français doivent comprendre, c'est que depuis le début de cette épidémie, il y a des différences selon les territoires. Des territoires qui sont touchés plus tôt que d'autres, des territoires qui sont touchés plus fortement que d'autres, comme par exemple la région Grand Est, l'Oise, la Corse. Ça monte clairement en Île-de-France. Je ne peux pas vous dire quand aura lieu le pic épidémique, mais on voit qu'il y a des montées de tensions, notamment dans les hôpitaux, dans certains territoires. Et nous saurons que nous avons passé le pic lorsque le nombre de malades commencera a diminué.
Il y a des régions qui sont épargnées, Olivier Véran, aujourd'hui, ou toutes les régions françaises sont touchées?
On considère que l'épidémie aujourd'hui touche tout le territoire, mais elle touche le territoire de façon différenciée selon les territoires.
Qu'en est-il des soignants?
C'est-à-dire qu'il y a des régions dans lesquelles...
Qu'en est-il des soignants, Olivier Véran?
Combien de soignants
sont atteints aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous le dire? C'est important pour les Français, pour leurs soins et leur système sanitaire.
Nous suivons chaque situation de décès, chaque cas grave de façon individualisée. Nous suivons aussi en particulier les personnes qui peuvent présenter des risques de contaminer d'autres malades. Et nous faisons évidemment très attention à la question des soignants. Mais il y a un principe très fort dans notre santé, dans notre médecine, auquel nous ne dérogeons pas même en période d'épidémie. C'est la question du secret médical. Donc il y a des données sur la profession, l'origine des personnes qui peuvent ne pas être rendues publiques, y compris d'ailleurs au niveau du ministère. Mais nous suivons de façon très précise et dans les hôpitaux pour vérifier qu'il y ait des soignants qui soient suffisamment nombreux pour pouvoir soigner les malades. Et nous accompagnons évidemment les médecins ou les soignants lorsque nous savons qu'ils sont malades et qu'ils sont soignants et médecins, de façon déjà à leur permettre de se mettre en retrait des soins pour ne pas contaminer les malades et d'autres soignants. Et par ailleurs, pour leur proposer des dispositifs lorsqu'ils sont médecins de ville, par exemple.
Mais est-ce que vous pouvez, est-ce que malheureusement on doit déplorer des décès actuellement chez le personnel soignant en France dû au coronavirus?
J'ai été informé hier soir du décès d'un médecin hospitalier. C'est à ma connaissance, avec toutes les réserves que j'ai indiquées auparavant liées au secret médical, c'est à ma connaissance la première situation qui a frappé un médecin hospitalier. Je n'en dirai pas plus en raison du secret médical, en raison de la volonté de la famille de garder aujourd'hui le secret autour de la personne, parce que le secret médical ne s'arrête pas à la mort. Je ne vous donnerai donc pas d'informations plus précises que cela, mais puisque vous m'en donnez l'occasion, je voudrais vraiment m'associer à la douleur, à la peine de la famille, à la douleur et à la peine de l'ensemble des soignants, et à nouveau souligner le courage extraordinaire dont font preuve l'ensemble des médecins, des soignants, des pompiers, de toutes les personnes qui permettent de sauver des vies chaque jour. C'est un très lourd tribut qui est payé par la grande famille des médecins aujourd'hui dans notre pays.
Mais ça veut dire, Olivier Véran, qu'aujourd'hui, les soignants qui sont confrontés dans les établissements hospitaliers ou en ville à des patients atteints de coronavirus ne sont pas suffisamment équipés, protégés et peuvent donc, comme ça semble être le cas en l'espèce, contracter la maladie eux-mêmes.
Ce que nous savons pour la France comme pour les pays étrangers, c'est que la plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière, mais en dehors des missions hospitalières. C'est pour ça, par exemple, que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir assurer des transports individualisés pour des soignants dans les hôpitaux, dans les grandes métropoles. C'est pour ça que nous donnons aussi des indications à l'ensemble des soignants comme à l'ensemble des Français sur le respect des gestes barrières, du lavage des mains, de la protection individuelle et collective, que ce soit au travail ou en dehors du travail. Mais oui, il y a des soignants qui sont par essence en première ligne, qui sont par définition ceux qui sont le plus en contact avec les malades, qui, avec ou sans protection d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs cas où nous avons eu une discussion avec des médecins réanimateurs d'un hôpital qui nous faisaient part de plusieurs cas de contamination dans une unité de médecine, de médecins ou d'infirmiers qui, bien qu'équipés en masque, avaient pu être contaminés. Évidemment, les outils de protection, le matériel de protection, le matériel de protection est absolument indispensable pour les soignants. Mais avec ou sans matériel de protection, avec ou sans le fait d'être en contact avec des personnes malades dans son exercice professionnel, on peut être malade quand on est soignant.
On va en parler, Olivier, dans le journal de dimanche ce matin, Emmanuel Macron est cité, voilà ce qu'il dit, chaque jour on essaie de corriger les erreurs qu'on a faites la veille. Ce qui peut paraître inquiétant pour les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent et nous regardent. Puisqu'il y a des erreurs qui peuvent être faites, est-ce que concernant le confinement, vous estimez que peut-être vous n'en avez pas pris la mesure suffisante et qu'il faudrait le durcir, comme le demande Anne Hidalgo, par exemple, aujourd'hui?
Le confinement, aujourd'hui, il est généralisé. Il est appliqué à l'italienne, il est appliqué à l'espagnol. Il va au-delà du confinement tel qu'il est appliqué en Allemagne. Il va au-delà du confinement tel qu'il est appliqué au Royaume-Uni et chez la plupart de nos voisins. Et il a été mis en œuvre plus tôt, au niveau des phases épidémiques, que l'ensemble des pays européens qui nous entourent. Ce confinement, il faut qu'il puisse être compris, il faut qu'il puisse être absolument appliqué partout, respecté en toute situation, ce qui n'est pas toujours simple, et vous pouvez vous en rendre compte. Il y a eu un changement radical dans notre pays il y a quelques jours suite à l'intervention du président de la République. Mais ce confinement, nous sommes aussi amenés, habilités, fondés à le renforcer partout où c'est nécessaire. Vous savez, depuis vendredi dernier, il y a eu un conseil de défense. Le président de la République a demandé aux autorités locales, aux maires et surtout aux préfets, d'être capables d'aller plus loin là où ils jugeaient que c'était nécessaire. Des préfets ont mis en place un couvre-feu avec les maires, par exemple à Perpignan, par exemple à Montpellier, par exemple à Nice. Le préfet Lallemand à Paris a décidé la fermeture des voies sur berge.
Mais faut-il, Olivier Véran, s'il vous plaît, sur ce principe
Paris.
Du couvre-feu.
Donc il y a des mesures qui peuvent être prises. Il y a des interdictions de marché extérieur qui peuvent être prononcées.
Mais faut-il généraliser le couvre-feu, Olivier Véran ?
Ils ne sont pas respectés.
Faut-il généraliser le couvre-feu, Olivier Véran ? Sur tout le territoire.
Aujourd'hui, le couvre-feu répond à des situations particulières, territorialisées, où l'on constate que le confinement n'est pas respecté, quel qu'en soit le motif, quelle qu'en soit la raison, et les préfets sont habilités, lorsqu'ils constatent sur un territoire que c'est nécessaire, à mettre en place toute mesure complémentaire, y compris des mesures de couvre-feu. Au niveau national, aujourd'hui, le confinement est généralisé, la consigne pour les Français, elle est extrêmement claire, et nous avons hier, dans le cadre du débat parlementaire, qui porte sur l'état d'urgence sanitaire, renforcer les sanctions qui peuvent peser sur les Français lorsqu'ils ne respectent pas le confinement, pouvant aller jusqu'à des peines d'emprisonnement lorsqu'il y a des récidives du non-respect du confinement.
Olivier
Nous
Véran,
sommes
est-ce
en
que
permanence en train de renforcer
préfet...
l'arsenal juridique et législatif.
Olivier Véran, est-ce que vous laissez donc au préfet la responsabilité individuelle de décider s'il faut ici et là, par exemple, interdire des marchés, s'il faut par exemple interdire le recours au jogging, comme certains soignants l'ont demandé? Ce sont les préfets localement qui vont prendre toutes ces décisions. C'est à eux de le porter.
Les préfets ont un pouvoir de police et de décision. C'est ainsi depuis que les préfets existent. Et les préfets ont, plus que l'État en l'occurrence, une visibilité totale, exhaustive et permanente sur l'ensemble des comportements des concitoyens, territoire par territoire, et des situations qui peuvent être des situations considérées comme
à risque. Une opinion à
dès lors qu'ils ont aujourd'hui le pouvoir d'appliquer des mesures différenciées. Mais mon opinion personnelle, c'est que le confinement généralisé, s'il est respecté par les Français, dans les conditions dans lesquelles nous l'avons demandé, dans les conditions dans lesquelles nous l'exigeons auprès des Français, si ce confinement est respecté par tous, c'est le moyen de lutter efficacement contre l'épidémie.
Alors,
il y a un conseil scientifique
qui n'est pas chargé de prendre des
décisions,
ce comité,
mais qui est chargé de nous éclairer et qui se prononce régulièrement sur cette
justement,
question.
Justement, ce conseil scientifique qui est présidé par le professeur Delfrécy, que vous allez réunir à nouveau demain. Le professeur Delfrécy, eh bien, il dit clairement que pour porter ses fruits, je le cite, le confinement pourrait durer au moins 4 semaines, Olivier Véran. C'est aujourd'hui un secret de Polichinelle. Ce confinement sera reproduit une nouvelle fois dans la durée.
Nous sommes dans des situations totalement inédites, en France comme dans le reste du monde. Nous mettons en œuvre des mesures qui n'ont jamais été mises en place dans aucun pays du monde. Nous nous donnons la possibilité d'observer l'efficacité des mesures que nous avons prises, de constater si oui ou non nous allons dans la bonne direction, s'il faut poursuivre ou non le confinement dans la durée, ou si nous sommes fondés à penser que le confinement a fait ses preuves. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes engagés sur un confinement d'une durée minimale de 2 semaines. Jamais nous n'avons donné de durée maximale. C'est une durée minimale qui tient compte des données de la science. Et quand on dit que chaque jour nous sommes amenés à revisiter ce que nous avons dit la veille, revisiter ce que nous avons évalué la veille, c'est en fonction des données scientifiques, des données médicales qui nous reviennent du monde entier. Nous observons avec la plus grande rigueur la courbe italienne, la courbe espagnole, la courbe allemande. Si nous constatons que le confinement dans la durée sur 4 semaines permet d'être plus efficace, nous le ferons.
Adrien
si
Jean.
Nous constatons qu'il s'agit de le renforcer par endroits, nous le ferons. Nous sommes en train d'adapter et d'anticiper en permanence. C'est ce que nous faisons depuis le début de cette crise sanitaire. Et je veux vraiment que les Français aient conscience de cela. C'est qu'il n'y a pas un pays européen autour de nous qui ait appliqué avant nous des mesures de confinement plus drastiques que celles que nous demandons
Olivier
aux Français.
Véran,
et j'ai conscience
demain,
de l'effort que
demain,
nous demandons aux Français.
Quand le Conseil scientifique donnera son avis sur la question du confinement, vous le suivrez. Il n'y aura pas lieu à une réflexion politique supplémentaire. L'avis du Conseil scientifique vaudra autorité.
L'avis du Conseil scientifique, ne nous trompons pas. L'avis du Conseil scientifique n'a pas vocation à servir d'autorité. Le Conseil scientifique, c'est moi qui l'ai voulu. C'est la première fois qu'on a un conseil scientifique. La première fois qu'on a un conseil scientifique indépendant. La première fois dans une crise sanitaire qu'on a des avis rendus publics d'un avis d'un conseil scientifique indépendant. C'est la première fois que nous le faisons et nous sommes le seul pays à l'avoir mis en place. Mais le conseil scientifique, il a vocation à nous éclairer, à nous informer, à nous inciter à prendre certaines décisions, à évaluer, à regarder en France, à l'étranger, comment ça se passe. Il a vocation à travailler avec les autorités de santé publique connues, fondées dans notre pays.
Est-ce que vous pourriez ne pas le suivre, les
exemples, ou la Direction générale de la santé? Nous sommes dans une démocratie aujourd'hui en France, et nous le resterons. Et donc c'est au pouvoir politique de prendre et d'assumer les décisions qu'il prend. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de divergence entre le conseil scientifique et le pouvoir politique.
Et la décision sera connue
et
demain.
Et nous avons toujours appuyé nos décisions politiques. Nous les avons toujours fondées sur la science. Mais je ne veux. Et d'ailleurs, c'est une demande du conseil scientifique et notamment du président Delfraissy que de ne pas confondre ce qui est du domaine d'éclairer le pouvoir politique et de décider à la place de la démocratie.
Et est-ce que vous donnerez
votre
décision
demain ? Encore une fois, jusqu'à présent, j'ai rendu à ce jour la totalité des avis publics, et j'ai même participé aux conférences de presse avec les équipes du Conseil scientifique, et nous avons toujours été en phase. Nous verrons comment ça évoluera dans les prochains jours. Je n'ai pas de raison de penser que ça changerait, mais je ne veux pas que les Français imaginent que nous nous défausserions sur un Conseil des sages. Nous travaillons et nous nous informons.
Est-ce que vous donnerez,
et nous nous
Olivier Véran, est-ce
de la
que le gouvernement
de la vision scientifique
donnera
de ce conseil
sa décision demain sur le confinement ?
Mais nous donnons nos décisions tous les jours sur le confinement. Je viens de vous dire que vendredi, nous avons pris des décisions après le Conseil de défense. Il y aura d'autres conseils de défense, il y aura d'autres conseils des ministres. Et à mesure que la situation l'exigera, nous serons amenés à prendre d'autres décisions en fonction des données de la science, en fonction de l'observation de ce qui marche et de ce qui ne marche pas en France comme à l'étranger.
Sur le confinement, Olivier
Véran, cette transparence, elle est essentielle. Oui, et cette transparence, je le redis, elle est inédite dans notre pays.
C'est de la transparence que vous souhaitez les Français aussi. Est-ce que vous dites que la fin du confinement, quand elle aura lieu, se fera de manière graduelle, que tous les Français ne sortiront pas en même temps? Est-ce que c'est cela aussi la réalité à laquelle ils doivent se préparer?
C'est une possibilité. Encore une fois, c'est une possibilité. Ce n'est pas... Vous me posez des questions et je les comprends, et je comprends les questions que se posent et que nous posent les Français. Elles sont légitimes et je me les pose moi-même, et comme citoyen et comme ministre de la Santé. Nous faisons face à une menace inédite. Nous n'avons pas l'expérience du passé. Nous ne pouvons pas savoir quelle est la meilleure façon aujourd'hui de sortir du confinement, mais nous avons de l'avance. Et c'est un atout par rapport à d'autres pays qui ont vécu cette situation épidémique et dont nous observons chaque jour l'effet des mesures qu'ils mettent en place ou l'effet des mesures qu'ils retirent. Si nous nous rendons compte que le déconfinement doit être progressif, nous le ferons. Si nous nous rendons compte, à l'inverse, que le déconfinement doit être plus tardif et généralisé, nous le ferons. Je prendrai toujours les décisions qui iront vers plus de sécurité et de santé pour les Français.
C'est le seul critère qui prime. Vous dites qu'on a de l'avance. Est-ce que vous l'appliquez également à la question des masques? Hier, vous avez annoncé la commande de 250 millions de masques. Déjà, pour bien comprendre, cette commande, elle a été passée, elle est en train d'être passée, elle va être passée. Et quand est-ce que ces masques arriveront? Puisqu'on a bien compris qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes des soignants sur leur capacité à avoir accès à ces masques. Vous avez d'ailleurs vous-même hier détaillé toutes les professions qui allaient en bénéficier, en quelle quantité. Ça n'a quand même pas suffi à calmer les craintes.
La commande de masques à l'étranger, les commandes de masques à l'étranger, je les ai passées avant même que les usines chinoises aient rouvert. Vous savez que les usines chinoises dans la région de Wuhan, qui est une région qui concentre la fabrication des masques et qui a été la région la plus frappée par l'épidémie en Chine, les usines ont été à l'arrêt. Et avant même que les usines repartent, nous avons contacté l'ensemble des acteurs industriels sur place pour passer les commandes. La commande que j'ai annoncée hier de 250 millions de masques, je ne l'ai annoncée qu'hier que pour une raison. Je ne voulais pas l'annoncer plus tôt tant que je n'avais pas la certitude que la production pourrait suivre et que les importations seraient possibles dans la durée. Cette commande, elle a été passée il y a plusieurs semaines. Et je vais vous dire, il y a d'autres commandes que j'ai passées à l'étranger, dans plusieurs pays. Nous ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Et nous sommes amenés à prendre quasiment au quotidien, depuis plusieurs semaines, des commandes de masques à l'étranger. Et je les annonce à mesure qu'elles sont garanties, certifiées.
Vous l'avez explicité et détaillé.
J'ai 100% de chances que ces masques reviennent.
Juste une question vraiment très concrète que les Français se posent. Est-ce que s'il y avait suffisamment de masques dans le pays aujourd'hui, eh bien vous en vendriez en pharmacie à tous les Français qui le souhaitent?
D'abord, ces masques, nous ne les vendons pas. Ça fait partie de masques qu'on appelle du stock d'État. Ils sont délivrés gratuitement et c'est tout à fait normal. Ensuite, j'ai très clairement et en transparence, et j'ai pris le temps hier d'expliquer quelle était la doctrine d'usage de ces masques qui priorise les soignants, qui priorise les personnes les plus fragiles. Vous me posez une question qui m'inscrit dans un univers dans lequel je disposerai de milliards de masques. Est-ce que nous ferions les choses différemment? C'est une réflexion que nous aurions et que j'espère que nous pourrons avoir dans quelques semaines.
Parce que les Français se disent que vous gérez la pénurie.
Nous arrivons à importer et à produire suffisamment de masques.
Mais les Français se disent que vous gérez la pénurie. C'est pour ça que vous n'en donnez pas l'accès à tout le monde et à tous ceux qui le souhaitent dans les pharmacies.
Alors, en réalité, ce n'est pas le seul motif. C'est une question, évidemment, la capacité à distribuer des masques. J'ai aucune raison de vous dire le contraire. Mais attention, l'usage de masques en population courante, à moins que vous ayez 60% de la population, 60% de la population qui en permanence porte un masque, c'est ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé et ce que je répète semaine après semaine, jour
Olivier
après
Véran,
jour.
Prenons un exemple, Olivier Véran.
À moins que 60%...
Juste une question. Dans une famille où une personne est contaminée, qui le sait et qui rentre à la maison sans masque, est-ce que vous pouvez comprendre l'inquiétude qu'il peut y avoir dans un foyer qui voit revenir une personne qui doit revenir, mais qui est malade et qui ne peut pas être protégé, donc protéger les autres?
Mais je la comprends et je la partage. J'ai dans ma famille une situation qui est parfaitement identique, pas moi, mais dans ma fratrie, une situation qui est parfaitement identique. Je reçois ces questions, je reçois ces interrogations. Évidemment que je partage cette réflexion et ces interrogations. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes. C'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché. Et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. La meilleure méthode de protection, c'est le lavage des mains. C'est par les mains que l'immense majorité de la contamination se fait. Même lorsque vous portez un masque, vous touchez le masque, vous remettez l'élastique, vous l'enlevez, vous le posez sur le menton, certes, vous le remettez sur le nez. Vous pensez qu'il vous protège parce que quand vous êtes en face de quelqu'un, il va vous protéger. Mais en réalité... Pardon ? Je vous explique quand même, parce que c'est important, pardon. C'est de la santé publique, c'est pas de la politique, mais c'est de la santé publique, et c'est plus important pour moi aujourd'hui. C'est que l'usage du masque en tant que tel n'est pas l'alpha et l'oméga de la protection. Si vous voulez vraiment vous protéger et protéger les autres, c'est le lavage des mains, c'est le gel hydroalcoolique, c'est la distanciation sociale. Si vous êtes à plus d'un mètre d'une personne, vous êtes beaucoup plus protégé que si vous êtes à moins d'un mètre.
Olivier Véran, il y a un point sur les masques sur lesquels on voudrait que vous nous éclairiez également. Si on a bien compris, il y a également des prototypes. On a entendu le chiffre donné donc, de 40 prototypes en cours de test pour des masques chirurgicaux et ou FFP2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit? Ça veut dire qu'on peut imaginer dans les jours, les semaines à venir, avoir également de nouveaux fournisseurs et de nouveaux modèles. En quoi ça consiste?
Oui, j'ai annoncé hier que nos entreprises françaises, qui fonctionnent H24, 7 sur 7, sont capables de sortir 6 millions de masques aujourd'hui, en majorité des FFP2. Demain, ce sera 8 millions de masques et on pourra monter à 11 millions de masques d'ici à un mois et demi de fabrication. Mais sans attendre, nous avons développé non seulement une réorientation de l'industrie qui le peut vers la fabrication de masques classiques et en même temps, c'est notamment Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire qui travaillent avec les entreprises françaises parce qu'on sait innover. Il y a 40 prototypes de masques différents qui sont en cours d'expérimentation que nos entreprises seraient capables de produire en grosse quantité. Et dans le même temps, et j'insiste là-dessus, au-delà des 250 millions de commandes qui sont en train de nous arriver progressivement en provenance notamment de Chine, il y a d'autres achats en masse de masques de tous les pays étrangers qui le peuvent pour pouvoir fournir nos officines et nos pharmacies françaises.
Donc,
ce problème est pris à bras-le-corps depuis le premier jour. Quand je suis arrivé dans ce ministère, la question des masques était une question qui était déjà abordée. Je le dis, ce n'est pas quelque chose que nous avons découvert il y a 15 jours. Il ne faut surtout pas croire ça. Et l'ensemble des commandes qui sont aujourd'hui, que j'ai annoncées, sont passées déjà depuis plusieurs semaines. J'insiste sur ce point.
Olivier Véran, le professeur Jérôme Salomon, qui est aujourd'hui directeur général de la Santé, avait publié une note à l'intention d'Emmanuel Macron, candidat à l'époque à l'Élysée, c'était en 2016, disant qu'il fallait se préparer, que la France n'était pas préparée à une épidémie de la sorte. Est-ce qu'il y a eu un manque d'anticipation des gouvernements précédents, mais aussi du vôtre, de ce gouvernement, de ce pouvoir depuis qu'il est aux responsabilités depuis 2017?
L'heure n'est certainement pas, et vous n'attendez pas ça de moi, à la moindre polémique ou à la moindre volonté de rejeter la faute sur tel ou tel il y a 10 ans ou il y a 7 ans ou il y a 8 ans. Je crois que ce n'est pas le sujet. Sincèrement, ce n'est pas le sujet. S'il y a une commission d'enquête plus tard, nous y participerons et j'imagine que les Français auront envie de connaître comment nous sommes capables de nous préparer à la gestion d'une crise épidémique. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je mobilise toute l'énergie et notamment l'énergie de mon directeur général de la santé, Jérôme Salomon, sur la protection des Français. C'est là que je concentre la totalité de nos forces, c'est là que c'est absolument primordial. Quant à savoir comment la France a réagi, lorsqu'il y a eu à Wuhan des Français qu'il a fallu rapatrier. Nous sommes le seul pays d'Europe à avoir rapatrié ces personnes et les avoir confinées totalement pendant toute une quatorzaine. Il n'y a pas eu un cas de contagion sur le territoire national. Lorsque les premiers cas sont apparus à Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie, je n'étais pas ministre, c'était Agnès Buzyn qui était ministre. Nous sommes le seul pays à avoir diligenté une équipe sur place, à avoir testé 150 personnes, y compris des enfants, à avoir fermé des écoles. Il n'y avait que 4 malades sur le territoire. Nous avons hospitalisé ces malades, nous avons été capables de circonscrire le foyer épidémique et d'éteindre l'incendie qui couvait en Haute-Savoie. Si nous ne l'avions pas été prêts, si nous n'avions pas agi à cette époque de manière aussi incisive et aussi rapide, l'épidémie, elle serait dans notre pays depuis plus d'un mois déjà. Donc la France est toujours préparée en anticipation. Nous avons toujours considéré le risque comme maximal, quitte à ce qu'on nous puisse nous reprocher, et vous savez que c'est déjà arrivé dans notre pays, d'en avoir trop fait.
Une dernière question sur les masques, Olivier Véran, pour clore ce chapitre. Concernant les policiers, vous avez vu que beaucoup d'entre eux s'inquiétaient parce qu'ils sont chargés de faire les contrôles auprès des Français pour le respect du confinement. Laurent Nunez, le secrétaire d'État, a expliqué cette semaine qu'ils ne devaient pas porter de masques. On a bien compris que vous rappeliez qu'ils étaient prioritairement destinés aux soignants. Est-ce que vous dites à ces policiers, vous n'aurez pas de masques ou attendez, patientez le temps que des masques arrivent et nous vous en donnerons?
Je leur dis que cette question, comme je l'ai annoncé hier, fait l'objet d'une discussion que nous aurons avec le Conseil scientifique et l'ensemble des experts mardi en présence du président de la République. Toute la question de l'enjeu d'équiper ou non les non-soignants, mais les acteurs de première ligne, les policiers, les pompiers, que je salue aussi pour leur dévouement permanent sur le terrain. Ces questions-là seront abordées mardi avec le Conseil scientifique. Évidemment, je n'ai pas de raison de vous mentir. La question des stocks de masques, de notre capacité à en avoir davantage demain qu'hier, sera une question qui rentrera en ligne de compte, mais ça ne doit pas être la seule. C'est aussi, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est indispensable, pour qui, dans quelle situation et sur quelle durée, ces réponses-là, nous les aurons mardi.
On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury invité exceptionnel Olivier Véran. À tout de suite.
Suite du Grand Jury, émission spéciale. Invité aujourd'hui, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Jeanne de TF1-LCI, TF1-LCI qui, exceptionnellement, et on les en remercie, nous accueille sur leur plateau. Adrien, une nouvelle question sur les testings, les kits de tests au ministre de la Santé.
Vous en avez parlé longuement également hier dans votre conférence de presse, Olivier Véran. Vous êtes interpellé également par un certain nombre de personnalités, médecins, épidémiologistes sur la question de ces tests. Il faut tester et isoler les personnes contaminées, demande-t-il dans une lettre publiée par nos confrères du Parisien. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous avez dit hier qu'il y aurait davantage de tests. Est-ce qu'on parle de tests maintenant, tout de suite? Est-ce qu'on parle de tests pour la sortie du confinement, le jour où cela se produira?
Il y a préparation de la France pour pouvoir faire beaucoup de tests au moment venu. L'enjeu, je l'ai dit, c'est le moment de la levée du confinement. Le deuxième enjeu, c'est vite accéder, et la recherche est très active et pourrait percer très rapidement, sur des sérologies pour qu'on puisse savoir si les malades qu'on pensait Covid+, l'ont été ou non, pour leur permettre de sortir et de retrouver leur vie normale au plus vite. L'enjeu, c'est d'équiper l'ensemble des laboratoires, 120 laboratoires au lieu de 50 désormais, en kits de réactifs, en méthodes de calcul et d'analyse, pour pouvoir multiplier ces tests. Mais je le redis, nous avons été toujours en phase avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé depuis le début. Maintenant, les recommandations de l'OMS ainsi que les avis de plusieurs experts évoluent pour nous dire « il faut tester davantage ». J'ai répondu « oui ». J'entends les recommandations, là aussi, nous allons tester davantage. La France se prépare à pouvoir tester davantage dans notre pays très rapidement.
Olivier Véran, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appelle à effectuer un test pour chaque cas suspect. Même question que pour les masques. Si nous avions les réactifs nécessaires et suffisants, si nous avions les kits de dépistage en grand nombre, est-ce que tous les Français pourraient être testés aujourd'hui? et empêcher la propagation.
Alors, aucun pays au monde ne teste toute sa population. La France réalise 5000 tests par jour. Nous avons augmenté la puissance de ces tests et nous sommes largement au-dessus de la moyenne des pays européens. L'Allemagne est devant nous aujourd'hui, mais nous sommes en train progressivement de la rattraper. La Corée est le seul pays à avoir testé massivement parce qu'elle dispose de plateformes PCR, c'est-à-dire les laboratoires d'analyse en très grand nombre, du fait qu'elle a été percutée très durement plusieurs années auparavant par des épidémies tragiques qui avaient fait beaucoup de morts. L'enjeu aujourd'hui, c'est moins sur les plateformes de PCR pour les tests actuels que la capacité à faire aboutir, je le disais, la recherche sur des tests très rapides, des tests par réactif, des sérologies. Nous avons beaucoup de nouvelles qui nous permettent d'avoir de l'espoir, d'être en mesure de tester massivement la population dans les semaines à venir. Nous sommes très liés à l'avancée de la recherche. Et quand je dis recherche, ce n'est pas que la recherche française, c'est la recherche mondiale. Le premier pays qui aboutira à des méthodes diagnostiques à grande échelle pourra en faire bénéficier tous les autres pays et les choses seront beaucoup plus simples.
Mais vous dites donc bien, Olivier Véran, qu'on n'attendra pas, pour bien vous comprendre, la fin du confinement pour tester davantage. Vous dites les prochaines semaines. Ça peut être y compris pendant le confinement.
Je suis en train de vous dire que nous mettons tout en œuvre pour que la France soit capable d'augmenter ses capacités de test sans délai, mais que l'enjeu majeur par ailleurs, c'est le moment où nous lèverons le confinement pour savoir qui aura eu la maladie, qui ne l'aura pas eu, et de manière à éviter, s'il devait y avoir une reprise de l'épidémie dans notre pays après la levée du confinement, c'est une hypothèse sur laquelle un certain nombre d'experts travaillent, que nous puissions être en mesure d'avoir une méthode qui s'inspire des nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire tester, tester et tester.
Tester tout le monde au moment de la levée du confinement, ça veut dire ?
Pas tester tout le monde, tester toutes les personnes qui ont été en situation d'être malades pour lesquelles il n'y aurait pas eu de test positif, c'est tester les personnes pour lesquelles il y aurait un doute, c'est tester une population élargie parmi le public fragile. Mais encore une fois, aujourd'hui, la France teste davantage que la plupart de ses voisins. Nous testons systématiquement les femmes enceintes, les donneurs de tissus, les donneurs de cellules. Nous testons les soignants parce qu'il faut qu'ils sachent s'ils sont contagieux ou non pour les malades. Nous testons tous les patients sévères, tous les cas hospitalisés, toutes les personnes porteuses de fragilité, les personnes âgées. Nous testons toutes ces personnes et les autres personnes, nous les considérons comme malades dès lors qu'un médecin en a fait le diagnostic, en présentiel ou par téléphone, c'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui a de la fièvre, des signes respiratoires, un syndrome grippal, contacte son médecin par téléphone, il ne va pas le voir, il le contacte par téléphone, le médecin évalue s'il est nécessaire qu'il le rencontre pour l'examiner ou non, et sinon on lui dit « restez chez vous, ne sortez pas, sous aucun prétexte ». C'est très important, hein. Si vous êtes considéré comme étant malade, il n'y a aucune permission de sortie. C'est véritablement le confinement. Il n'y a pas de jogging, il n'y a pas de course, il n'y a pas de travail. Si vous êtes malade, ne sortez sous aucun prétexte.
Olivier Véran.
À partir de là, on considère les personnes comme malades et elles sont confinées.
Oui. Juste une question tout de même. Il manque de réactifs. Est-ce que ça, vous nous le confirmez aujourd'hui pour vraiment faire en sorte que ces tests soient menés, un produit qui est en Chine, produit en Chine et aux États-Unis, qui le gardent pour l'instant pour eux?
Non, nous achetons massivement des réactifs partout où nous pouvons acheter des réactifs. Il y a des tensions localisées, territoriales, qui sont souvent le fait de difficultés d'acheminement. C'est aussi pour ça que le message de « il faut que la vie économique du pays continue » et je remercie les transporteurs, je remercie les grossistes, je remercie celles et ceux qui continuent d'aller travailler pour fabriquer et pour faire tourner le pays parce qu'on en a besoin. S'il y a un problème dans la chaîne, s'il y a un problème d'acheminement, s'il y a un retrait du travail à un endroit, ça crée des tensions localisées. Aujourd'hui, nous sommes en train d'acheter les réactifs, les kits de prélèvement, les nouvelles méthodes de tests diagnostiques partout où nous pouvons. L'attention, elle porte surtout sur les capacités PCR. Ce sont des gros laboratoires avec des grosses plateformes techniques, technologiques qui arrivent à saturation au-delà de plusieurs milliers de tests. Mais nous testons quand même largement 4000, 5000 personnes par jour, demain davantage et après-demain bien davantage encore. Nous faisons attention à tout. Vous savez, dans un marché mondial très tendu où tous les pays qui nous entourent font face à la même situation. On parle des masques en France. Posez la question aux Italiens, posez la question aux Espagnols, posez la question aux Allemands. Nous sommes tous à la recherche des mêmes matériaux, des mêmes disponibilités, ce qui est d'ailleurs un enseignement pour demain. Il faut que nous ayons des entreprises sur notre territoire demain capables de faire face, de nous accorder une autonomie totale et que nous ne soyons pas dépendants, comme c'est le cas depuis trop d'années, de la Chine, de l'Inde ou d'autres pays d'Asie.
Olivier Véran, vous faisiez allusion à l'instant aux transporteurs, entre autres, au fait qu'il faut que l'économie puisse continuer à fonctionner d'une certaine manière, au moins pour tous ses besoins essentiels, bien sûr. Mais si certains Français peuvent aller travailler en respectant les gestes barrières, les mesures de précaution, ils ont aussi pour beaucoup du mal à comprendre pourquoi dans ce cas, ils ne pourraient pas voir leurs proches, leurs familles, en respectant ces mêmes gestes barrières. Si ces gestes barrières sont efficaces dans le cadre du travail, pourquoi ne seraient-ils pas efficaces dans le cadre amical ou familial ?
Parce qu'en période de confinement, en période d'épidémie, ça peut être dur à comprendre, ça peut être dur à accepter, mais c'est un fait. Il y a des choses qui sont du domaine de l'indispensable et du vital, et d'autres choses qui sont du domaine du sacrifice personnel. Ce que nous demandons aux Français, c'est d'être capable de se mobiliser pour continuer à faire tourner l'économie de notre pays, non pas pour des objectifs économiques ou de budget, mais parce que s'il manque un maillon dans la chaîne de production de notre pays, tout peut s'effondrer. Je prenais l'exemple dans ma conférence de presse d'hier du médicament. S'il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de médicament. S'il n'y a pas de circuit électronique, il n'y a pas de frigo. S'il n'y a pas d'électricien, il n'y a pas de circuit électronique. S'il n'y a pas de matière première, il n'y a pas d'électricien. Et s'il n'y a pas de transporteur, il n'y a pas de matière première. C'est absolument indispensable. S'il manque un maillon, nous sommes en difficulté et il y a des difficultés, des tensions d'approvisionnement sur tout ce qui est essentiel pour les Français.
Par contre, Olivier Véran,
tout ce qui peut être limité, tout ce qui peut être repoussé à plus tard, la vie sociale, la vie familiale, je sais que c'est dur, croyez-moi, c'est dur pour tout le monde. Oui. Demandez à mon ministère, tout le monde est en télétravail ou presque, et chacun fait des sacrifices à tout niveau de l'État, personne n'est au-dessus du confinement.
Olivier Véran.
Eh bien, c'est absolument indispensable pour limiter la diffusion du virus.
Mais il n'y a pas d'urgence dans ce cas-là, par exemple, à poursuivre les chantiers de BTP. On a vu que c'était un enjeu pour le gouvernement ces derniers jours, il y a eu beaucoup de discussions avec les fédérations de travaux publics. À Grenoble, le maire, lui, il a décidé de mettre en sommeil tous les chantiers qui relevaient de la ville. Est-ce que ce n'est pas en réalité ça la bonne attitude pour lutter contre le virus ?
La question, par exemple, vous parlez de BTP. Dans BTP, il y a TP. TP, c'est travaux publics. Si on n'entretient pas les routes, si on n'entretient pas les canalisations, si on n'entretient pas les gaines électriques, si on n'est pas capable de vérifier qu'il n'y ait pas de panne, de destruction, si on n'est pas prêt, en cas d'intempérie, à intervenir pour établir l'électricité, l'eau, l'énergie, tout s'arrête. Donc il y a des travaux qui peuvent être peut-être suspendus ou repoussés à plus tard, mais il y a l'immense majorité des travaux publics qui, eux, sont absolument indispensables pour la continuité tout court de notre pays. Vous savez, faire une liste exhaustive de ce qui est nécessaire et de ce qui ne serait pas indispensable dans la période, on peut tenter de le faire. Ça va prendre du temps et on peut aussi passer à côté de choses qu'on ne percevait peut-être pas et qui pourtant auraient un impact très fort jusqu'à avoir un impact sur la santé des Français.
Olivier Véran, justement, la santé des Français, revenons-y, et aux conditions sanitaires en France. Est-ce que vous pouvez assurer ceux qui nous écoutent et nous regardent qu'aujourd'hui, non, la France n'aura pas à choisir entre ses malades, faute notamment de respirateurs suffisants dans nos hôpitaux, Olivier Véran?
La question des respirateurs, la question des lits de réanimation, la question des lits de soins intensifs. Quand je dis depuis des semaines que la France se prépare, quand nous avons demandé à tous les hôpitaux, à toutes les cliniques de France, même dans les territoires dans lesquels le virus circule pas ou peu, d'arrêter toute l'activité programmée, donc d'être capable de monter en gamme tous les lits. Lorsque nous faisons appel à la réserve sanitaire, qui est désormais riche de près de 40 000 personnes, lorsque nous faisons la solidarité entre les territoires, lorsque nous passons des commandes de milliers de respirateurs aux entreprises françaises et étrangères, c'est pour être capable de faire face le plus possible aux difficultés, aux tensions qui sont localisées dans certains territoires lorsque l'épidémie frappe. Mais regardez au Grand Est. Nous avons été malgré tout, malgré la préparation, obligé de transporter, de transférer des patients par hélicoptère, par avion sanitaire, même de transférer certains patients à l'étranger, ce qui a été le cas, et je remercie la Suisse et l'Allemagne qui ont accepté de prendre quelques patients dans des lits de réanimation, parce qu'ils sont frontaliers de la région du Grand Est, pour soulager les hôpitaux. Quand une épidémie frappe, quand il y a un grand nombre de patients qui arrivent aux urgences et en réanimation, vous pouvez avoir toutes les structures ad hoc, adéquates, vous pouvez avoir tout préparé. Vous pouvez vous trouver dans une situation de tension extrême. La solidarité entre les territoires, la solidarité européenne, la mobilisation exceptionnelle de tous les soignants nous permet de faire face aux situations même les plus tendues. Mais c'est sûr qu'il y a des situations qui sont extrêmes, extrêmement tendues, et qui poussent parfois les équipes à se poser la question de savoir si quelqu'un qui est dans un état très grave, qui mourra vraisemblablement dans tous les cas, est-ce qu'on va quand même le mettre en réanimation pour voir pendant quelques jours ? Où est-ce qu'on le laisse partir? Ce sont des situations éthiques très complexes. Je me mets à la place des soignants qui sont obligés de se poser ce type de questions. J'ai demandé à ce que des cellules éthiques soient mises en place dans tous les hôpitaux pour pouvoir accompagner les soignants dans ce type de décision si elles devaient arriver à se poser.
Donc ça veut dire, Olivier Véran, qu'on ne pourra pas y échapper et que c'est malheureusement la force du virus qui nous y contraindra?
Ça veut dire que nous faisons tout pour être en mesure d'y échapper, mais de la même manière que je vous parle de l'incertitude inhérente à un virus émergent, de l'incertitude inhérente à une épidémie qu'on ne connaît pas, inhérente à un ennemi que nous affrontons pour la première fois, je ne peux pas vous dire, les yeux dans les yeux, que ce type de situation ne peut pas arriver, même dans un pays comme la France, qui est préparé, qui dispose d'acteurs de santé remarquables et de nombreux lits de réanimation. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons le maximum pour que cette situation ne se présente pas et que si elle devait se présenter, elle puisse être accompagnée, patient par patient, médecin par patient, médecin par médecin, par des cellules éthiques. Nous faisons tout aujourd'hui pour éviter d'être face à ce type de situation. Mais encore une fois, l'incertitude liée à un risque viral, et je crois que les Français l'ont compris, l'incertitude liée à une épidémie dont on ne connaît pas encore l'ampleur, et personne ne peut vous dire qu'elle connaît l'ampleur, me force à être prudent quand je vous réponds.
En termes de chiffres, Olivier Véran, quand on regarde le nombre de lits de réanimation avec respirateur aujourd'hui et les commandes de respirateurs que vous évoquiez à l'instant, combien la France va-t-elle pouvoir avoir de lits de réanimation avec respirateur au total? Où va se situer pour nous le plafond?
Nous avons augmenté les capacités. D'abord, le premier enjeu, c'était quand même de faire de la place dans les réanimations. Faire de la place, ce n'est pas un joli mot, mais ça veut dire qu'en empêchant les hôpitaux et les cliniques d'avoir de l'activité programmée, ou des patients qui vont être opérés pour de la chirurgie non urgente et dont on sait qu'ils auraient besoin de lits de réanimation, on leur dit « attendez que l'épidémie soit passée ». Ainsi, on a libéré des places de réanimation. Ensuite, on a dédoublé par endroits où c'était possible des lits, où on a fait monter en gamme, monter en compétence des lits de soins intensifs en lits de réanimation, systématiquement équipés de respirateurs. Par exemple, dans la région Grand Est, il y a des respirateurs qui sont prêtés par les régions environnantes et des respirateurs qui sont aussi amenés par les commandes. À Air Liquide, nous avons acheté 1100 respirateurs qui sont produits en France. Nous avons passé également une commande pour 500 respirateurs supplémentaires à l'étranger. Nous disposons d'un parc de respirateurs qui est un parc important par rapport à la moyenne européenne et nous sommes surtout capables, c'est l'enjeu, de les mobiliser des territoires les moins en tension vers les territoires les plus en tension. L'autre logique, c'est de dire quand un hôpital sature, on enlève des malades de cet hôpital qu'on va transférer et hospitaliser dans des hôpitaux même loin.
Mais quel sera notre plafond,
mais qui en a place.
Quel sera notre maximum une fois tous ces efforts accomplis?
Nous avons à la base 5000, quelques 5000 lits de réanimation, 7000 lits de soins intensifs. Nous avons déjà, dans certains territoires comme l'Île-de-France ou le Grand Est, augmenté de plus de 30% ces capacités, ce qui veut dire que nous sommes capables au total d'approcher les 20 000 places de réanimation. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à les équiper, d'avoir des rotations entre les hôpitaux. L'épidémie ne frappe pas au même moment, avec la même intensité, tout le territoire. L'épidémie, vous le voyez, elle se concentre sur la Corse, sur le Grand Est, demain sur l'Île-de-France, dans d'autres territoires, du côté de Perpignan, où c'est en train de monter. Et donc, nous mobilisons tous les territoires pour venir en aide aux territoires les plus en difficulté aujourd'hui. Et si l'épidémie devait surgir dans d'autres territoires après, qu'il puisse y avoir la même solidarité et la même organisation.
Olivier
et pour
Véran,
cela,
justement.
Encore une fois, on ne le dira jamais assez, on remercie énormément aussi les soignants qui se mobilisent, la réserve sanitaire, tous les transporteurs, les ARS. Je veux avoir un mot pour chacun, l'assurance maladie aussi, qui est extrêmement mobilisée dans cette période.
Et pour les militaires, justement, Olivier Véran, puisque vous êtes en train d'établir et de construire un hôpital de campagne à Mulhouse, est-ce qu'il y a d'autres structures de ce type qui peuvent être déployés en France? On entend dire que nous n'avons à notre disposition qu'un seul hôpital de campagne qui pourrait être adapté à cette situation épidémique avec des respirateurs.
Oui, parmi les solutions qui sont proposées pour soulager les hôpitaux et augmenter notre capacité d'accueil, j'en ai cité beaucoup. Il y a l'hôpital de campagne qui est en construction du côté de Mulhouse. Il y a d'autres dispositifs qui existent. Je citerai le bateau militaire Tonnerre qui est en Méditerranée et qui transporte des malades d'Ajaccio vers la région PACA. Nous avons des dispositifs. Nous faisons appel évidemment au service de santé des armées qui est pleinement mobilisé dans la période. Nous avons beaucoup de dispositifs. Et parmi ces dispositifs, un hôpital de campagne militaire qui est en cours de construction dans la région la plus tendue
d'autres.
Et qui permettra dans la durée d'accueillir des malades.
Il y en aura d'autres, Olivier Véran?
En hôpital militaire disponible, prêt à la construction, nous avons un modèle d'hôpital militaire qui est en construction aujourd'hui à Mulhouse.
Donc,
je vous ai répondu.
D'accord, donc nous n'avons qu'un seul. Autre sujet important pour les Français, eh bien, c'est les traitements. Et l'on parle d'un antipaludéen, la chloroquine, qui est actuellement testée. Vous avez donné les autorisations nécessaires pour un test accéléré. Est-ce que vous pouvez nous dire, Olivier Véran, si jamais l'effet est avéré, qu'il est bénéfique, en combien de temps l'ensemble des malades pourrait en bénéficier?
Si nous avions la possibilité de découvrir, en France ou à l'étranger, un traitement, celui que vous citez, ou un autre, qui permettrait de soigner des malades, qui permettrait de soigner des vies, sachez une chose, c'est que ma mobilisation depuis le premier jour est totale, vous l'avez dit, pour faciliter les essais cliniques en moins de 24 heures, mais aussi pour préparer l'industrie pharmaceutique. Je suis même allé jusqu'à vérifier que nous disposions sur le territoire national, pas en Europe, sur le territoire national, de quantités suffisantes de matières premières pour pouvoir fabriquer rapidement les médicaments parmi ceux qui portent aujourd'hui, sur lesquels nous portons aujourd'hui le plus d'espoir. À l'heure à laquelle je vous parle, sur la question de la chloroquine que vous citez, avec toute la prudence que j'ai indiquée hier, je le redis, ce ne serait pas la première épidémie où nous avons d'un virus, où nous avons l'espoir fondé sur un traitement et où il se révèle que, hélas, l'espoir était déçu. Mais l'espoir, il me suffit, moi, aujourd'hui, pour tout mettre en œuvre pour qu'on puisse vérifier si c'est efficace ou non. Et ce traitement, s'il devait être efficace, nous le proposerions aux Français sans aucun délai. Et je vous disais, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a dans plusieurs hôpitaux français, aujourd'hui même, l'inclusion de plusieurs malades graves, avec des troubles respiratoires, des besoins en oxygène, dans des hôpitaux parisiens et provinciaux qui sont en train d'expérimenter ce traitement, dont nous aurons les résultats au fil des jours.
Quand est-ce qu'on saura? Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a la capacité en France donc, de le produire massivement?
J'ai dit que nous aurons des études solides qui nous diront si oui ou non c'est un bon traitement. Si oui ou non c'est un bon traitement, parce que ça peut aussi être non, hélas, le résultat de l'étude, nous le verrons. J'ai dit que d'ici à 15 jours, nous devrions avoir des données consolidées. Si je peux avoir des indications favorables ou des signaux perceptibles, même faibles, dans un délai plus court, je reviendrai et j'en ferai une déclaration publique devant les Français.
Olivier Véran, l'épouse du maire de Nice s'est exprimée publiquement pour dire qu'elle avait elle-même eu recours à cette substance et qu'en 48 heures, elle avait été remise sur pied. Est-ce que vous dites que c'est bien de tester en conditions réelles et d'avoir recours à cette chloroquine ou au contraire, est-ce que vous mettez en garde les patients et les médecins qui aujourd'hui l'utiliseraient sans attendre le résultat des tests dont vous parliez?
Je suis médecin et je suis ministre de la Santé. Ma responsabilité, c'est de protéger les Français. Et ma responsabilité, c'est de trouver des traitements ou d'aider à trouver des traitements. Pour cela, il y a des protocoles. 24 heures de délai de réponse pour le protocole du professeur Raoult. Je l'ai tous les jours au téléphone. Je l'ai eu encore ce matin au téléphone pour suivre de très près ses travaux. Comme j'ai aussi d'autres chercheurs qui travaillent sur d'autres types de molécules. Encore une fois, dès lors que j'aurai la moindre indication d'une autorité de santé publique, des savants, des sachants, des scientifiques, fondée sur les données de la science, publiée en France ou à l'étranger, qui irait dans le sens d'une prescription de ce traitement, je le dirais aujourd'hui, ce n'est pas responsable, hors protocole thérapeutique, ce n'est pas responsable hors des protocoles hospitaliers, que d'indiquer aux gens qu'ils peuvent s'automédiquer avec un médicament dont les effets indésirables peuvent être aussi importants, sans avoir la certitude qu'il est efficace. Comprenez-moi, je serais totalement irresponsable si je vous disais autre chose, mais ça ne veut pas dire que je freine des cas de fer. Au contraire, j'accompagne, j'accueille et j'encourage la recherche à tout niveau pour qu'elle puisse nous permettre de trouver le plus rapidement possible un traitement. Et j'organise, je planifie, je structure pour que si un traitement devait être identifié dans notre pays, les Français puissent en bénéficier.
Très rapidement,
c'est une priorité,
passer,
vous l'imaginez bien.
Très rapidement, on vous entend sur ce sujet. Très rapidement, avant de passer aux questions des internautes, est-ce que vous avez à déplorer des vols de chloroquine dans des hôpitaux aujourd'hui?
Je déplore des vols de masques dans les hôpitaux par milliers. Je déplore, je condamne, je ne trouve pas les mots. Des cas de situations où des médecins se sont fait fracturer leur voiture pour qu'on aille leur prendre leur caducé, leur plaque, dans l'espoir d'aller chercher des masques et de les revendre. Je déplore des vols de médicaments. Ça a été du paracétamol pendant un temps, alors que nous ne manquons pas de paracétamol. Ça peut être de la chloroquine ou d'autres médicaments antiviraux. C'est inadmissible, c'est irresponsable, c'est dangereux, c'est mortifère. Vous savez, dans ces périodes d'épidémie, dans ces périodes de guerre, comme celle que connaît notre pays, l'immense majorité des gens révèle son meilleur côté, son côté positif, son côté solidaire, son côté ouvert et sérieux. Et puis vous avez toujours des gens qui révèlent leur part sombre. Et ceux-là, mais écoutez, je ne peux que les condamner.
On passe à question nette.
Le grand jury, question nette.
Et cette question qui est revenue en boucle, Olivier Véran, de beaucoup de téléspectateurs et auditeurs. Y a-t-il des passe-droits pour les tests? Armel Vautreau, par exemple, nous dit « public prioritaire comme les députés, les ministres ou anciens ministres parce que les vrais gens, même symptomatiques, eux, on leur refuse le test. Pourquoi ce deux poids, deux mesures ?»
Ben non, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. On s'impose les mêmes règles qu'à l'ensemble des Français. Je suis moi-même confiné dans mon ministère. Là, trois quarts de mon équipe est en télétravail. Lorsqu'une personne a été cas contact, elle ne se teste pas. Elle rentre chez elle et elle attend la fin de la quatorzaine. Et mes enfants sont confinés dans une autre ville que moi, à l'autre bout de la France. Et je ne les ai pas vus depuis de nombreux jours. Les règles s'appliquent à tout le monde de la même manière. Nous devons être irréprochables, étant donné la nature des efforts que nous demandons aux Français.
Autre question d'Adrien Jean.
Autre question qui nous vient de Dominique Olivier Véran concernant les masques à fabriquer soi-même. Est-ce que oui ou non, il est utile de fabriquer et de porter par exemple des masques en tissu? Est-ce que cela peut protéger au moins un minimum des postillons qu'on enverrait envers ses proches ou inversement?
Ce qui protège, c'est se laver les mains, c'est rester à distance des personnes, c'est appliquer les gestes barrières et c'est rester confiné. Sur l'utilisation de masques qui n'en sont pas, tels que des foulards, j'ai demandé aux autorités compétentes de nous rendre des avis sur la question. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que ça peut être pire? Parfois, ça peut être pire. Si vous portez un linge qui, vous êtes face à une personne malade qui vous postillonne dessus, que le linge est imprégné de virus, vous allez remettre le linge, vous allez vous en mettre sur les doigts et après, vous allez toucher votre visage une fois par minute, comme n'importe quel Français, et c'est là que vous allez vous contaminer par les mains.
Quand est-ce que vous saurez si ce mode de protection peut, avec textile, peut être efficace?
Dans les tout prochains jours, c'est une question que nous avons posée. Et au-delà de cette question-là, c'est est-ce qu'il y a des masques intermédiaires? C'est-à-dire, est-ce qu'entre les masques normés, avec les normes AFNOR, marquées CE, que nous produisons et que nous achetons, et le masque maison qui serait fait en tissu ou en foulard, est-ce qu'il y a des masques intermédiaires que nous sommes susceptibles de construire rapidement, de fabriquer rapidement, pour le donner et à qui? Tout cela fait partie des saisines des autorités de santé publique et les recommandations nous reviennent progressivement. Probablement en début de semaine à nouveau, j'aurai une mise à jour de ces recommandations. Mais beaucoup de questions.
Oui, justement, il y en a une autre.
Ça fait partie du quotidien des Français.
Olivier Véran. Ouais.
Olivier Véran, justement, et des témoignages, beaucoup, y compris pour le coup celui d'une ancienne ministre, Laurence Rossignol, qui elle-même a travaillé aux affaires sociales sous le quinquennat de François Hollande. Elle s'est exprimée sur Twitter pour rapporter son cas. Cas pratique à 500 mètres de chez nous, raconte-t-elle. Mon beau-père, 97 ans, bon pied, bon œil. 3 cas dans son établissement. Si on avait fait des tests, on vérifierait qu'on n'est pas Covid plus, c'est lui non plus, et on le prendrait en confinement chez nous. Mais comme on n'a pas de test, on ne peut pas. Vous en dites quoi?
J'en dis que les EHPAD sont équipés en masques. Ils ont demandé 500 000 masques par jour. Je leur ai attribué 500 000 masques par jour et je travaille avec les fédérations. Il y a des personnes dans mon ministère qui sont spécialement dédiées à cette question des EHPAD, des personnes fragiles et des personnes âgées. Et que les règles sont très claires. Il n'y a plus de visite dans les établissements pour personnes âgées, pour ne pas risquer les contaminations. Il y a isolement systématique avec l'activation du plan bleu dans les EHPAD dès qu'il y a une personne qui est suspecte ou qui est malade, de façon à éviter la propagation aux autres résidents de l'EHPAD.
Olivier Véran, une question aussi là, très concrète hein, d'une internaute, Julie Billou, qui est aide-soignante. Elle n'a plus de train pour se déplacer. Elle demande où en sont les taxis pour le personnel soignant promis par Emmanuel Macron. C'était lors de son intervention lundi soir. Pas de taxi, comme il l'a promis. Taxi également, hôtel réquisitionné. Où en est-on de cette promesse présidentielle? Et comment ça fonctionne concrètement?
Et pour les logements et pour les transports, nous sommes en train de passer des contrats avec des grandes chaînes hôtelières, certaines d'ailleurs qui nous le font gratuitement, y compris des chaînes qui ne sont pas des chaînes d'hôtels, mais qui sont des chaînes de mise en relation entre des clients et des logements. Vous voyez de qui je veux parler. Et également, sur les transports, nous sommes en contact très étroit. J'étais hier avec Jean-Baptiste Djebbari, tard hier soir, au téléphone, pour faire le bilan de l'ensemble des sociétés de transport, à la fois de taxis et de véhicules particuliers, qui se proposent de mettre à disposition, parfois gratuitement, parfois payés par l'État, des transports individualisés ou en petits groupes, pour les soignants, tout cela avance. Nous aurons à faire une intervention sur ce sujet dans les tout prochains jours aussi. Oui. Et c'est une innovation. Et à nouveau, c'est l'occasion pour moi de saluer et de remercier Olivier tous Véran. Ceux qui font preuve de solidarité, d'ingéniosité dans la période.
Olivier Véran, des associations féministes aussi, avec de nombreux commentaires sur les réseaux de NousToutes.org ou d'Emilie Alonso, qui demandent de prolonger le délai d'accès à l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines pour ces circonstances exceptionnelles qui ne leur permettent pas d'aller dans les centres auxquels elles ont plus facilement accès, bien évidemment, en temps ordinaire. Que leur répondez-vous?
J'ai donné immédiatement instruction à mon ministère. Je m'en suis entretenu avec Marlène Schiappa et nous avons communiqué, je crois, il y a 2 jours sur la question pour vérifier si oui ou non il y avait des personnes qui étaient empêchées d'accéder à l'IVG. Nous avons aussi rappelé toutes les mesures de simplification à la pilule du lendemain et nous sommes en lien étroit avec l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le domaine de l'IVG, à commencer par les gynécologues, les sages-femmes qui sont équipés en masques justement pour pouvoir maintenir ces filières. Nous n'avons pas eu de saisine ou d'alerte des professionnels de santé sur ce sujet. Si ça devait être le cas, nous simplifierions encore davantage. par tous les moyens, parce que l'accès à l'IVG est précieux, y compris en période d'épidémie, augmenter le délai au-delà de tout ce qui se fait en Europe de façon urgente, sans aucune concertation des professionnels, ne me semble pas de nature à être une réponse à un problème qui m'a été, pour lequel j'ai été sensibilisé par des associations et pour lequel je n'ai Olivier pas Véran. À ce stade d'alerte de la part des professionnels.
Toute dernière question, Olivier Véran, arrive au terme de cette émission. Une question encore sur les grands événements. La plupart des événements sportifs et culturels des semaines et des mois à venir ont été annulés. Reste la question des Jeux Olympiques. À ce stade, ils sont maintenus. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Santé français, vous souhaitez vous demander qu'il soit suspendu. Est-ce que vous imaginez, vous, envoyer des athlètes français aux Jeux Olympiques ?
Alors, est-ce que j'ai vocation à demander la suspension des JO comme ministre de la Santé ? Non. Est-ce que je me vois envoyer des athlètes aujourd'hui au Japon ou leur demander de se préparer dans de bonnes conditions ? La réponse est non.
Merci beaucoup, Olivier Véran, ça a le mérite de la clarté. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions pendant une heure dans ce grand jury exceptionnel. Merci, Benjamin Sportouche, d'avoir été sur ce plateau de LCI. Bien sûr, on se retrouve
la semaine prochaine. Merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs. À la semaine prochaine.